De retour sur le 91 MHz ou le 103.1 Radio Alliance Plus, réseau FM Plus, des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron. Donc, famille, je vous aime. On parlait, voilà. Je pensais pendant la pause musicale à la question du parrain et de la marraine. Je crois la grande différence entre les parents et les parrains et marraines, c'est que moi, en tant que père, je ne suis pas le copain de mes enfants. Je suis leur père. Et le parrain est à la fois ces deux figures. Il est le copain, le confident. Donc c'est vrai que c'est une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus de la nature différente. Je vois par exemple une de mes filles, la complicité qu'elle a, l'attachement qu'elle a avec sa marraine, parce que c'est quelqu'un à qui elle confie des choses qu'elle ne peut pas confier ou dire.
Parce que
la relation, il y a la question de l'autorité des parents qui modifie, je pense, la nature de la relation.
Absolument, oui, ça c'est un... Non, c'est très utile d'avoir un parrain, une marraine, moi je trouve, hein. Même pour un agnostique ou un athée, on peut voir dans certains usages une fonction structurante, édificatrice, pour une personnalité. Alors, nous avons parlé de ces archétypes parentaux, le père et la mère avec des majuscules. Eh bien, le Logion 105 de l'Évangile selon Thomas nous dit, Jésus a dit, « Celui qui connaîtra le père et la mère, toujours archétypaux, l'appellera-t-on fils de prostituée ?» Alors, on peut être surpris par cette formule, hein. On peut se dire que vient faire la prostituée là-dedans, hein. Eh bien, si on tient compte des archétypes, hein, eh bien, on voit que connaître le père et la mère, c'est triompher de toutes les calomnies. Alors, on sait que pour certains, Jésus a été un bâtard, hein, fils d'une union interdite entre Marie et un centurion romain nommé Panthère ou Pantera, hein. Donc, il aurait été un fils de prostituée, vous voyez. Et c'est vrai que dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, verset 3, hein, voici comment Jésus est appelé. Il est appelé le fils de Marie. Le fils de Marie implique la bâtardise, hein, puisque la filiation dans le monde juif se transmet par le père. On dit fils du père, hein, Ben, etc., tout ce que vous voudrez. Bon, mais fils de Marie suppose que, bon, ben, il s'agit d'une union qui est illicite.
Oui, mais la judaïté, c'est la mère qui la transmet.
Ah oui, vous avez raison. Vous
Donc,
avez raison.
On peut jouer sur les deux tableaux, effectivement. C'est généralement dans la tradition sémite, on dit fils d'eux. Mais là, on est
justement
hors cadre.
Oui, on est juste quand on devient une matrice juive.
Mais la judaïté, c'est ce qui est important pour être dans la filiation, c'est qui est ta mère. Et c'est par ta mère que je sais si tu es juif ou pas.
Oui. En tout cas, pour certains juifs, qui évidemment hostiles au christianisme naissant, Jésus n'était qu'un bâtard. Hein. Et c'est pour contrer ces ragots qui ont circulé, hein, qu'a dû être écrite, à mon avis, la légende de la naissance virginale de Jésus, hein, qui a été construite dans Matthieu et dans Luc par ce qu'on appelle dans le monde juif un midrash, c'est-à-dire la reprise par écriture justement d'un texte ancien. On appelle ça aussi un pécher, hein, P-E-S-H-E-R, qui depuis Qumran signifie la réalisation affirmée d'une prophétie. Hein. Donc, tout cela a été construit à partir du verset 14 du chapitre 7 d'Isaïe, dans la version de la Septante, c'est-à-dire de la Bible d'Alexandrie, Bible traduite au 3e siècle, de l'hébreu en grec, par 70 rabbins, justement, à Alexandrie. Alors, que dit cette prophétie ? Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Hein. Alors, je dis bien qu'il s'agit de la version de la Septante, parce que ce que la Septante retraduit par le mot vierge, parthénos, dans le texte hébreu, est seulement une jeune fille nubile, Alma. Hein. Jeune fille, en grec, se dirait Néanis, et la Septante n'a pas pris Néanis, et vierge en hébreu se dirait Bétoula. Hein. Donc, vous voyez, la Septante a autorisé cette lecture de la parthénogénèse, c'est-à-dire la naissance à partir d'une vierge, du futur Christ, du futur Messie, hein, voilà, bon. Mais le texte hébreu n'autorisait pas cette traduction, ce qui fait qu'en milieu juif, on a dit que le ciel a pleuré le jour où cette Bible-là a été traduite en grec par les 70 rabbins, vous voyez. Hein. Alors après, il y a eu un monde juif, de nouvelles traductions en grec de la Bible juive, plus conformes à ce que pensaient les juifs, c'est la traduction de Théodotion, hein, Théodotion, ou bien celle de Aquila. Hein. Donc, seulement en y réfléchissant, on se demande justement là-dessus si la question n'est pas plus complexe qu'il n'y paraît, puisque les Juifs d'aujourd'hui, donc, qui disent qu'il s'agit simplement de la jeune fille nubile, hein, et non pas d'une vierge qui enfantera Jésus, bon, les Juifs d'aujourd'hui s'inspirent d'un texte qui s'appelle le texte massorétique, fixé à l'époque des Massorètes, entre le 7e et le 10e siècle après Jésus-Christ. Quant à la Septante, elle est du 3e siècle, je crois 270, avant Jésus-Christ. Donc le texte juif pratiqué aujourd'hui à la synagogue est un texte bien postérieur à la Septante, vous voyez, Redouane. Et ça, on ne le sait pas assez. Hein. Donc les Juifs nous disent aujourd'hui que la Septante est une mauvaise traduction. Mais en fait, la Septante traduit des textes antérieurs, bien antérieurs à leur texte actuel, le texte massorétique, vous voyez. Alors c'est très compliqué. Hein. Je pense que cette naissance d'une vierge, bon, que l'on trouve au début de l'évangile de Matthieu, et on trouve aussi chez Luc, à l'Annonciation, voici l'Esprit Saint te couvrira de ton ombre, etc. Hein, psychologiquement est intéressant, puisque on revient à la famille, on y voit que le vrai père, c'est pas le géniteur biologique, mais c'est celui qui adopte l'enfant. Comme Joseph, hein. Donc le père, c'est celui qui donne un nom à l'enfant, qui l'empêche d'être un bâtard, qui l'empêche d'être le fils de Marie. Je reviens à mon option, si vous voulez, Redouane. Donc psychologiquement, c'est très intéressant. Cette légende a pu être forgée pour contrer les ragots de bâtardise concernant Jésus. Hein. Je pense que finalement. Et je crois qu'on peut conclure notre émission d'aujourd'hui là-dessus. La vérité factuelle, littérale, est une chose, hein, et la vérité profonde, la vérité psychologique, des choses qui nous paraissent légendaires, impossibles, par exemple, un voltairien dirait que Joseph a été le premier mari trompé de l'histoire, si vous voulez, vous voyez, des choses comme ça, c'est très très superficiel. Voltaire disait lui-même, je suis comme les petits ruisseaux, je ne suis clair que parce que je ne suis pas profond, vous voyez, hein. Donc, il faut creuser ces choses-là et non pas les poser en termes de possibilités réelles.
Merci Michel. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous souhaitez réécouter l'émission, c'est tout à fait faisable en allant sur le site. Il n'est pas encore au point, ça va venir, mais déjà vous pouvez réécouter en podcast l'émission d'aujourd'hui. Ou si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on vous la transmettra. Et puis aussi nous faire part de vos réactions. Nous serons ravis de reprendre vos interrogations, vos interpellations.
Et les doutes.
Merci Michel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, portez-vous bien. Et puis, on pourrait le dire encore par les temps qui courent et de voir comment on débat aujourd'hui. Alors, de temps en temps, dans nos propos, vous avez peut-être eu le sentiment qu'on faisait de la caricature. Mais c'est une manière pour nous de vous dire, je suis Charlie.
Absolument. Et puis, les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux.
Au revoir.
Au revoir à tous.